Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Le 3 février de cette année 2009, il y aura donc tout juste 100 ans, que naissait la philosophe française Simone Weil. Née à Paris, dans une famille juive non pratiquante, Simone Weil étudie au lycée Henri IV avec le philosophe Alain. Suivant le modèle de son frère, brillant mathématicien, elle entre à l'école normale supérieure et passe son agrégation de philosophie en 1931. Elle enseigne ensuite au Puy, à Roanne, à Saint-Étienne, où elle se rapproche de la classe ouvrière. Elle écrit ses premiers essais, « Oppression et liberté », en confrontant sa conception du marxisme avec la réalité du travail, qu'elle expérimente ensuite dans les usines Alstom et Renault. Toujours en quête d'absolu, Simone Weil rejoint le Front républicain espagnol en 1936 et connaît sa première révélation mystique à l'abbaye de Solesmes, 2 ans plus tard. Dès lors, elle veut comprendre la volonté de Dieu et l'articuler intellectuellement avec ses propres expériences religieuses. Elle donne dans « Pensées sans ordre concernant l'amour de Dieu » une interprétation mystique de la religion chrétienne, pleine de son désir aussi de sacrifice. En 1942, forcée de se réfugier aux États-Unis, Simone Weil refuse de quitter ses compatriotes et revient aider les forces françaises libres en Angleterre. Atteinte de tuberculose, elle s'éteint à 34 ans dans un sanatorium anglais à Ashford le 24 août 1943. Devant les micros de Canal Académie pour évoquer la philosophe française Simone Weil, Canal Académie a le plaisir de recevoir Sylvie Courtine-Denamy, chercheure à l'École pratique des hautes études, docteur en philosophie, traductrice. Sylvie Courtine-Denamy est spécialiste de Hannah Arendt. Sylvie Courtine-Denamy, bonjour. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Écoute Nathan, Promenade en Eretz Israël, Simone Weil, La quête de racines célestes aux éditions du Cerf, Le visage en question, De l'image à l'éthique ou encore La maison de Jacob, Le souci du monde, Trois femmes dans de sombres temps. Il s'agissait d'Edith Stein, de Simone Weil et Hannah Arendt. Bertrand Saint-Cernin, vous êtes académicien dans la section philosophie, académicien de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez fait paraître au Cerf un ouvrage important, passionnant, intitulé « L'action politique selon Simone Weil ». Vous êtes agrégé de philosophie, vous avez été recteur de Nancy-Metz, puis de Créteil, professeur à Nanterre et à la Sorbonne, dont vous êtes professeur émérite. Vous avez fait paraître les ouvrages « Whitehead, un univers en essai » aux éditions Vrin, « Philosophie des sciences » chez Gallimard, « La raison aux presses universitaires de France »,« Le rationalisme qui vient » chez Gallimard. Et nous vous devons donc cette étude intitulée « L'action politique selon Simone Weil » au Cerf, une édition qui est d'ailleurs épuisée, c'est bien dommage, m'avez-vous dit, et sur laquelle nous allons revenir. Florence Delucy est avec nous devant les micros de Canal Académie. Florence Delucy, vous êtes conservateur général des bibliothèques. Votre thèse de doctorat fut consacrée à Paul Valéry. La poésie, les poètes, Michaud, Bonnefoy vous ont retenu longtemps avant que vous n'approchiez l'œuvre de Simone Weil. Florence Delucy, vous avez la charge, la mission, depuis près de 30 ans, d'assurer l'édition chez Gallimard des œuvres complètes de cette philosophe française.
C'est une aventure énorme. Quand je dis 30 ans, c'est-à-dire que les premiers pas datent de la fin des années 70. Et tout est venu d'une initiative très intelligente, absolument remarquable, de l'administrateur général de l'époque, maintenant on dit président de la Bibliothèque nationale de France. À l'époque, c'était l'administrateur général, c'était Georges Lerider. Et il avait décidé, vraiment d'une façon tout à fait étonnante, parce que ça ne s'était jamais fait, de rapprocher les fonds de la Bibliothèque nationale, les fonds remarquables. Vous savez que la Bibliothèque nationale de France regorge de richesses et de fonds non exploités. Donc, rapprocher les fonds remarquables de la bibliothèque de ceux qui les exploitent. Autrement dit, ça signifiait rapprocher la Bibliothèque nationale de France, qui est le réceptacle des richesses, et les chercheurs, et essentiellement, évidemment, le CNRS. Donc, il a instauré ce qu'on a appelé à l'époque un GIS, un groupement d'intérêts scientifiques, et se sont constitués un certain nombre d'unités pour des projets qui réunissaient chacune d'entre elles un conservateur responsable du fonds à l'intérieur de la Bibliothèque nationale de France et un chercheur, ou plutôt une équipe de chercheurs de toute provenance, en général le CNRS, pour travailler ensemble en vue d'un projet qui était le plus souvent un projet de publication de catalogue ou autre. Alors André Weil...
Voilà, c'est là qu'intervient le grand mathématicien André Weil.
André Weil a saisi cette opportunité extraordinaire, il a compris l'intérêt de cette conjonction. Il a donc déposé les manuscrits de sa sœur, c'était à la fin de 78, et il a déposé donc ces manuscrits, mais avec une condition, et cette condition, évidemment, avait beaucoup à voir avec ces groupements d'intérêts scientifiques, dans le but de constituer une équipe qui publierait les œuvres complètes de sa sœur dont il venait de déposer les manuscrits. Donc, imaginez ce nœud, j'aurais envie d'utiliser l'expression un nœud ferroviaire. C'était un nœud extraordinaire, un kairos, un moment favorable où tout s'est conjugué. Vous aviez un administrateur intelligent, des papiers déposés par un frère encore plus intelligent peut-être, et puis un professeur, le professeur André Devaux, qui venait au même moment de constituer une association pour l'étude de la pensée de Simone Weil et qui, de ce fait-là, a été promu, il a accepté la charge, a été promu directeur de cette entreprise.
Et donc, vous intervenez, Florence Delucy, en tant que conservateur, et vous êtes nommée responsable de ce fonds Simone Weil.
Oui, en effet. Enfin, on m'a demandé mon avis, j'ai dit oui, et puis je n'en suis jamais sortie.
Et quelle était alors, à l'époque, alors vous le disiez tout à l'heure, il y a 30 ans de cela. Quel était votre contact avec l'œuvre, avec le travail de Simone Weil à l'époque de cette prise de décision?
Rien, à peu près rien. Une honnête connaissance, en fait extrêmement faiblarde. Et d'un seul coup, je me suis trouvée en charge de l'ensemble d'un fonds. Or, le CNRS était intervenu dans cette aventure. Et il apportait de l'argent. Il fallait dépenser cet argent. Ça paraît ridicule, mais c'est comme ça. Et j'ai eu tout à coup, en même temps que je recevais cette charge, 4 vacataires. Mais pour faire quoi? Quand vous venez de recevoir une masse de manuscrits à peu près non classés, que faire? Comment commencer? Donc il y a eu quelques années que j'appellerais assez terribles, parce qu'on se trouve en face de quelque chose, une énorme machine qu'on ne sait pas faire fonctionner. Quoi faire? Ordonner quoi? Quoi dire à ces vacataires? Quelle tâche leur donner? Non, c'était vraiment très difficile. J'étais beaucoup plus jeune, évidemment, donc j'avais une énergie encore très neuve. Et j'ai donc dû, si vous voulez, aborder tout à la fois. Prendre la connaissance d'un fonds. Il est vrai que comme conservateur, j'étais mieux armée que quiconque, évidemment. Nous savons ce que c'est qu'un fonds de manuscrits. Mais malgré tout, c'était très impressionnant. Et puis former une équipe. L'équipe, Monsieur Devaux, professeur Devaux, a réuni le noyau, un noyau merveilleux d'ailleurs, dont certains ne sont déjà plus de ce monde. Mais le noyau a grandi et on s'est retrouvé assez rapidement une équipe de 10-12 personnes, dont André Weil. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une équipe de 10-12 personnes? On ne fait rien. Comment voulez-vous travailler avec 12 personnes? Ça n'existe pas.
Alors, Gallimard est arrivé à ce moment-là?
Attendez, c'est beaucoup plus long. En fait, mes premières tâches ont été extraordinairement matérielles. Il a fallu fixer tous ces manuscrits avec des numéros par boîte, ensuite tout microfilmer, tout reproduire ensuite sous une forme, à l'époque c'était sur le plan technique, c'était tout de même moins perfectionné que maintenant, et surtout multiplier en autant d'exemplaires qu'il y avait de personnes destinées à travailler sur ce fonds. Donc il fallait dominer un déluge de papier. Ensuite, essayer de constituer des dossiers à peu près cohérents, distribuer, ensuite se réunir, mais pour décider quoi ? C'était des années vraiment extraordinairement difficiles. Alors, au bout d'un certain temps, le certain temps, c'est quelques années, nous avons commencé à trouver une certaine maîtrise. J'oserais dire, peut-être modestement, j'ai commencé à maîtriser le tout. Parce que dans cette aventure, vous concevez aisément que le conservateur qui est en charge du fonds, il joue un rôle essentiel. Mais on s'approchait quand même de quelque chose. Et il est bien évident qu'André Weil souhaitait que ce soit Gallimard. Alors, on a contacté Gallimard. Gallimard a dit pourquoi pas, nous ne serions pas contre, surtout que soutenu par la personnalité d'André Weil, mais il fallait que nous rédigions un descriptif de l'œuvre telle que nous la concevions. Je rédigeais ce descriptif. Et ça, il y a donc 25 ans. À cru, à nu, avec mes mains, c'est-à-dire prévoir le nombre de volumes, la distinction des blocs, grosso modo le nombre de pages, arriver à définir dans chaque volume ce qu'il y avait, définir les grands principes, c'est-à-dire ne pas mélanger les œuvres et la correspondance, définir les conventions principales que nous allions suivre, définir l'abondance du corpus des notes, définir y aurait-il ou non des index, etc. C'est peut-être pour moi l'occasion d'une certaine fierté qu'il y a 25 ans, à nu, à cru, avec mes pauvres mains, j'ai réussi à rédiger un descriptif des œuvres complètes qui a reçu l'aval du professeur Devaux. Ça a été accepté par l'éditeur Gallimard, c'était Robert Gallimard à l'époque. Et enfin, d'ailleurs nous avons été à ce moment-là lâchés par le CNRS, puisque le CNRS nous approvisionnait financièrement dans le but justement d'aboutir à un contrat avec un éditeur. Nous avons obtenu le contrat, donc le CNRS s'est écarté. Et nous voilà maintenant avec un programme, et il a fallu commencer. Alors là, je dois aussi rendre hommage à tous ceux qui, courageusement, il faut bien le dire, ont commencé. Gilbert Kahn et Rolf Kühn ont été chargés, et ils se sont chargés, ils ont accepté la charge de fabriquer le manuscrit du volume 1, c'est-à-dire les premiers écrits philosophiques. Je salue ceux qui ont eu courage de commencer. Donc, Gilbert Kahn comme philosophe, les premiers écrits philosophiques. Ensuite, Géraldine Leroy, qui a accepté de se charger des volumes des écrits historiques et politiques, c'est-à-dire la vie politique et syndicale de Simone Veil, aidée assez vite par Anne Roche, une remarquable universitaire littéraire. D'ailleurs, Géraldine Leroy aussi était littéraire, mais ils avaient tous deux travaillé sur Peggy, donc l'aventure politique de ces années-là ou de ce siècle leur était assez familière. Enfin, ils se sont lancés là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il y a eu 3 volumes d'écrits historiques et politiques, et Madame Fraisse est venue s'adjoindre à ce groupe, et elle a été responsable du volume 3 des écrits historiques et politiques. Alors, on commençait à ce moment-là à exister quelque peu. Pas du tout au niveau des médias. On nous a ignorés splendidement. Nous avons beaucoup travaillé pendant des années. Aucun écho. Enfin, peu importe, dans un certain sens, nous avons continué. Alors ensuite, nous nous sommes heurtés à un bloc, ce que j'appellerais le bloc des cahiers. Et là, j'ai été, je crois, avoir joué quand même un rôle assez important. Parce que notre équipe, très nombreuse encore, se divisait en 2 groupes. Ceux qui pensaient qu'il fallait faire les choses avec une certaine simplicité, c'est-à-dire reprendre pratiquement l'édition Plomb, qui avait fait l'objet d'ailleurs de 2 éditions successives, peut-être en l'arrangeant un peu, avec des notes de bas de page ou des notes de fin de volume. Mais en tant que conservateur, et puis quand même déjà bien entré dans la manière de Simone Veil, dans la beauté de sa pensée, et surtout sa manière et sa méthode de penser, j'ai compris qu'il s'agissait là d'un absolu trésor. Et que par conséquent, pour les 4 volumes des cahiers, il fallait absolument opter pour le maximum de richesse éditoriale, si vous voulez. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup insisté. Je crois même qu'il y a eu des moments difficiles. Et je crois même pouvoir dire que j'ai dû m'imposer. Et je ne le regrette pas. Parce que nous avons choisi la voie la plus difficile. Et je crois que pour une pensée difficile, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'une page, 2 pages, 10 pages vous paraissent obscures que vous allez renoncer à y mettre de la clarté. Et d'ailleurs, c'est en creusant indéfiniment, en retrouvant les citations, en retrouvant les ouvrages qu'elle avait eus entre les mains, en relisant derrière elle tout ce qu'elle avait lu, posément et patiemment, eh bien, la plupart des difficultés d'interprétation, on s'imaginait que c'était totalement aléatoire. Très peu d'aléatoire chez Simone Veil, très peu. C'est pas parce que vous avez des conjonctions étonnantes, des passerelles entre des domaines qui ne sont absolument pas connexes, qu'il n'y a pas connexion. Et précisément, les cahiers permettent d'établir le pont de Simone Veil, c'est-à-dire la manière dont elle passait d'un domaine à l'autre. Ça met à nu ce type de conjonction, vous comprenez ? Et du coup, ces pages deviennent non seulement lisibles, mais de plus en plus compréhensibles. Et c'est pourquoi je peux dire que, en tant que lectrice, mais tout autour de moi, tous ceux qui aiment Simone Veil le pensent, on s'entretient avec Simone Veil indéfiniment. C'est l'entretien infini à la Blanchot. Et à chaque fois qu'on y revient, on se rend compte que c'est encore plus intelligent, encore plus cohérent, encore plus profond. Thank you.
Bertrand Saint-Cernin, un auteur très prolifique, Simone Veil. Elle écrivait beaucoup, selon ses humeurs. Elle avait toujours un carnet sur elle. Comment est-ce que ça se passait au niveau de sa création?
Si vous voulez, ce qui m'a frappé, la première fois où j'ai entendu parler de Simone Veil, c'était lorsque j'étais élève en Hippocagne de Michel Alexandre, qui avait été le premier lecteur d'Oppression et Liberté. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire Simone Veil. Et ce qui m'a le plus frappé, c'était au fond, la question que je me suis posée, c'était comment une jeune fille qui ne dispose d'aucun moyen d'information particulier, d'aucun réseau spécial, d'experts sur des choses particulières, a pu avoir une vision aussi profonde, aussi juste, à la fois de la situation de l'Allemagne en 1932, de la situation de la Russie, où là, à vrai dire, on avait beaucoup de témoins. On avait un certain nombre, et le musée social qui se trouve à deux pas du ministère de l'Éducation nationale comporte des sources extrêmement riches, notamment les fameux numéros de l'Humanité de Jaurès, où son correspondant en Russie, en octobre 17, qualifie la révolution de Lénine de coup d'État. Donc, ce sont des choses dans lesquelles elle a eu une connaissance, je crois, elle n'avait pas de moyens particuliers, mais elle a réussi à résoudre un problème qui est, au fond, un problème toujours très difficile pour les philosophes. Qu'est-ce que la perception peut apporter? Et alors, je crois que son originalité, c'est de dire qu'il y a deux sortes, au fond, d'expériences. Il y a l'expérience que l'on forme lorsqu'on veut rester à l'arrière, et il y a l'expérience que l'on forme si on accepte d'aller aux avant-postes. Et c'est, je crois, l'attitude qu'elle a eue toujours, de vouloir avoir une expérience profonde, requérant au fond la totalité de l'être. Mais là encore, la lectrice du Timée qu'elle est, Madame de Lucy, avant le début de cette émission, nous expliquait que le prochain volume des œuvres complètes comporterait justement à la fois le texte grec des passages du Timée que Simone Veil a traduit, et c'était une merveilleuse traductrice. Dans le Timée, Platon dit à un moment donné que Dieu n'a pas lui-même créé les hommes. Il en a confié la fabrication à ce qu'il appelle des dieux plus jeunes. Et il dit que les hommes ont au fond deux âmes, une âme mortelle et une âme qui peut se tourner vers Dieu. Et je crois que chez Simone Veil, il y a cette idée que l'expérience complète demande deux conditions, d'aller aux avant-postes, mais de ne pas laisser l'âme mortelle, c'est-à-dire ce qu'elle appelle le moi ou le nous, prévaloir sur cette sorte de vision, non pas plus détachée, mais plus limpide des êtres et des choses. Et dans une lettre à Joël Bousquet, d'ailleurs, qui date de la période de Marseille, elle dit « Il est très rare que des hommes sachent que les choses et les êtres existent. »
Un enseignement qui vient du philosophe Alain. Quelle est la part de transmission et d'autorité qu'a pu avoir Alain sur la construction de la pensée de Simone Veil?
Bien, un des textes d'Alain les plus intéressants, ce sont ses lettres à Sergio Solmi, qui n'est pas un texte très connu, mais c'est un ensemble de lettres qu'il écrit à un philosophe italien, et il en ressort que celui qui a une expérience réelle des choses, à la manière un peu dont Kant entendait l'expérience, ne voit pas simplement des fabrications des choses ou des êtres par l'imagination humaine, mais est capable de découvrir les structures ou les assises du monde. Et je crois que Simone Veil a reçu d'Alain cette idée que, par les moyens ordinaires, par l'expérience menée, je dirais, comme disaient les Latins, expeditus, armée à la légère, on était capable de découvrir des choses essentielles. En revanche, je crois que il y a eu une sorte de cécité politique d'Alain qui l'a, au fond... Alain avait été meurtri, comme beaucoup de ses contemporains, par la guerre de 14-18. Et Simone Veil dit elle-même que cette impression du malheur du monde est entrée en elle avec ce souvenir de la guerre de 14 et cette expérience.
Il avait été blessé sur le champ de guerre.
Alain, et surtout, il était territorial, il avait 43 ans en 14. Et il a demandé à servir dans l'armée active, et donc il a été dans un régiment d'artillerie, enfin il a fait la guerre avec beaucoup de courage, et en même temps, il en a gardé un pacifisme très profond, qui se retrouve alors dans l'œuvre de Simone Veil, et dont, quand elle a écrit l'enracinement et quand l'occupation de la France est devenue une réalité, je crois qu'elle avait un certain regret, au fond, de cette chose-là, comme regret que... D'ailleurs, qu'Anguilhem, lui aussi, un peu partagé, je le crois. Ce sont des hommes qui ont senti que quelque chose avait basculé à partir de la prise de pouvoir d'Hitler et que probablement, dans des circonstances de cette nature, il est difficile de maintenir, au fond, l'existence d'un pays par des moyens purement pacifiques. D'ailleurs, il y a des pages de l'enracinement qui, à cet égard, sont absolument étonnante.
Vous écrivez, Bertrand Saint-Cernin, dans « L'action politique selon Simone Veil », votre ouvrage, pour décrire Alain, vous écrivez « Humaniste cartésien ». Il est un éveilleur d'esprit, passionné de liberté, qui ne propose pas un système ou une école philosophique, mais apprend à se méfier des idées toutes faites. Alors, pour lui, la capacité de jugement que donne la perception doit être prise en direct avec la réalité du monde et non bâtie à travers un système théorique. Donc, on voit la filiation. Seulement, Alain, lui, il ne croit pas en Dieu, il n'est pas anticlérical, dites-vous. Il respecte l'esprit de la religion, mais il n'ira pas aussi loin que l'expérience spirituelle que va mener Simone Veil.
Très certainement. Je crois, ce que vous dites, c'est, au fond... Le mérite d'Alain, pour elle, c'est de ne pas avoir de système. Et elle dit que le seul grand philosophe qui n'ait pas eu de système, c'est Platon. Et elle ajoute que Platon dit qu'il n'a rien inventé. Et à la fin des lois, Platon, par la bouche d'un des trois interlocuteurs du dialogue, qui est l'Athénien, définit la connaissance parfaite comme l'union de l'intelligence, du nous, et des plus belles perceptions qui se mélangent au point de ne faire plus qu'un. Et il ajoute que c'est la condition qui serait nécessaire pour réussir le pilotage stratégique des cités. Et on peut dire que l'enracinement, c'est au fond une méditation sur la reconstruction d'une nation. Son idée, c'est que dans une démocratie, ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont responsables de la sécurité de leur pays. Et que, au moment où la liberté de leur pays disparaît, d'une certaine façon, les valeurs spirituelles les plus importantes risquent elles aussi d'être menacées parce que le paradoxe de l'existence humaine, c'est que les valeurs absolues transitent ou sont transmises par des institutions qui, elles, sont relatives.
Sylvie Courtine-Denamy, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à cet engagement dans la pensée politique de...
Oui,
en dehors de tout système.
Effectivement, comme Bertrand Saint-Cernin l'a rappelé tout à l'heure, Simone Veil se critique violemment. Elle parle, en 1943, même avant d'ailleurs, elle parle de son erreur criminelle d'avant 1939, s'agissant de son pacifisme. Je suis évidemment d'accord avec M. Saint-Cernin concernant l'œuvre de reconstruction que constitue, on l'a dit tout à l'heure, ce testament politique, ce second grand œuvre qu'est le livre intitulé « L'enracinement » par Camus. Ceci dit, je serais assez curieuse de connaître l'avis de M. de Saint-Cernin concernant, si j'ose m'exprimer ainsi un peu schématiquement, la réussite ou non du projet. À votre avis, Simone Veil a-t-elle vraiment réussi à nous livrer, disons, des ébauches d'institutions pour remédier au déracinement qu'elle avait diagnostiqué? Ou bien est-ce que vous ne pensez pas, comme je le pense, en tous les cas, ou comme je l'écris, c'est ce qui m'a semblé, qu'elle délaisse un peu le politique pour... que le salut ne saurait venir du politique et certainement pas des hommes politiques, mais comme elle le dit, d'un nouveau type de sainteté sans précédent, adapté à l'époque présente, des gens qui ne seraient d'ailleurs pas des religieux, puisqu'elle récuse l'idée du Père Perrin de créer un ordre religieux laïque à l'image de féminin, à l'image de Sainte Catherine de Sienne. Donc c'est pas ça non plus, mais des saints qui seraient au contact permanent des malheureux, qui seraient eux-mêmes pauvres. Et là, on a l'impression qu'elle pense à elle-même, puisqu'elle s'est imposée cette vie de pauvreté pour s'identifier plus pleinement à la cause qu'elle défendait. Voilà, moi, il me semble qu'elle nous laisse certes des idées. On en a parlé un petit peu précédemment. Elle nous laisse des idées pour remédier... à ce qu'elle a vu, au malheur ouvrier qu'elle a vu. Elle nous laisse quelques idées pour remédier au déracinement paysan qui lui paraît encore plus scandaleux que le déracinement ouvrier. Mais est-ce que ça débouche vraiment sur un projet de société nouvelle qui échapperait, qui plus est, au mal dénoncé, qui permettrait de lutter contre le totalitarisme?
Je pense qu'elle est trop platonicienne pour croire que le mal peut disparaître de la terre. Il y a un passage célèbre, je crois que c'est dans le Tête-Tête, où Socrate dit à Théodore « Le mal ne peut pas disparaître, il circule au milieu des réalités mortelles ». Donc je crois qu'il n'y a pas d'illusion. D'un autre côté, elle dit aussi dans l'Enracinement qu'il y a un long passage sur Richelieu, où elle dit que ce qui distingue justement la vie religieuse de la vie politique, c'est que le sort des cités se décide ici-bas. Donc, elle croit. Je pense aussi, bien qu'elle ne cite jamais Bossuet, à mon sens, elle ne le cite pas, Bossuet, dans son essai d'Histoire universelle, dans la troisième partie, a un chapitre qui d'ailleurs, quand j'étais jeune, se trouvait dans toutes les éditions sociales. Les bibliothèques communistes citaient toujours Bossuet. Ça m'avait beaucoup surpris. Et la raison, c'est que Bossuet, dans le livre 3 de son Histoire universelle, dans le livre 3 au chapitre 2, dit que Dieu n'intervient pas dans l'histoire humaine et que finalement, la sphère politique... c'est au fond une responsabilité des hommes. Alors, bien entendu, et dans l'Enracinement, on voit bien, il y a toute une première partie sur les besoins de l'âme, il y a donc une dimension spirituelle, mais je crois qu'elle a le sentiment que le politique forme un ordre avec, et là je crois que vous avez tout à fait raison, avec une grande faille, c'est qu'il y a d'abord une sorte de choix à faire, ou bien le monde relève uniquement d'une mécanique des forces. Et au fond, Hitler a raison, et le totalitarisme est la seule attitude rationnelle qu'on puisse avoir. Ou bien, nous sommes du côté, non pas des forces subies, mais nous échappons d'une certaine façon, où nous avons une capacité de surmonter la pression des forces. Autrement dit, la liberté est une réalité. Et juste au milieu de l'Enracinement, je crois que dans la petite édition, c'est vers la page 302 ou 303, dans la première édition qui a paru en 47 ou 49, elle dit cela. Alors, je crois que vous avez raison, il y a dans l'Enracinement une double dimension, une dimension au fond spirituelle, une dimension politique, mais je ne crois pas effectivement qu'on puisse tirer dans l'enracinement, ce n'est pas un travail de législateur.
Ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous entendre dire.
Mais pour entrer dans cette discussion, je pense que Simone Veil avait un plan de pensée, c'est-à-dire qu'elle ne pensait pas d'une façon aléatoire et successive. Donc il y a un plan de pensée, ce qui signifierait toute la pensée est aimantée vers un certain nord, le nord d'une pensée. Or, ce nord d'une pensée chez elle, ce point d'ancrage, c'est certainement son expérience christique. Elle était donc chrétienne, elle avait, si l'on peut dire, essayons une phrase un petit peu sotte, elle avait reçu une lumière d'en haut, si vous voulez. Or, cette lumière infuse absolument partout. Et l'enracinement est un texte qui est entièrement infusé. Il y a une vertu au sens d'énergie qui parcourt le texte en son entier. Donc, c'est un point. Donne-moi un point, je soulève vers le monde. C'est à la croisée de différentes routes. Mais c'est l'existence de ce point pur, comme elle l'appelle, est absolument évidente. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes tellement fascinés par ce type d'écriture. Parce que c'est une écriture animée. C'est une pensée vivante. C'est l'esprit, le fameux pneuma zoopoyoun de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Hein, l'esprit qui donne la vie. Donc je dirais même plus qu'une possession, une visite christique, elle a été visitée par quelque chose qui est proprement spirituel, de l'ordre du pneuma. Vous ne trouvez pas ?
Je crois que l'idée de la visitation spirituelle, et de toute façon c'est un thème très classique, vous avez un des textes le majeur à ce sujet, c'est au fond dans les confessions de saint Augustin, lorsqu'il parle de Dieu comme inhabitateur, comme un hôte intérieur. Et je crois que chez Simone Veil, il y a toujours cette idée, elle le redit à plusieurs reprises, que la vérité n'est pas au fond découverte par une sorte de réminiscence interne, mais que la vérité vient du dehors, et elle ajoute de Dieu.
Qu'est-ce qu'elle entendait par le mot attention ?
Ah, c'est une des choses les plus importantes. Alors je crois que d'abord, historiquement, il faut se rappeler que la tradition philosophique, et notamment l'école de Platon, pensent qu'avant de se mettre au travail intellectuel, il faut au fond faire franchir à sa propre conscience, à son propre psychisme, à sa propre pesanteur, tout un travail un peu de distillation ou de purification. Et on a par exemple la prière de Proclus. Avant la vie intellectuelle, on doit se faire un certain nombre d'exercices. Alors, je crois que dans l'attention, il y a, je crois, cette idée d'arriver à trouver le moyen de désolidariser sa pensée de son psychisme et de cette matière qui vous prend. Or, mais c'est beaucoup plus subtil que cela parce qu'elle dit en même temps que la méthode matérialiste, elle reproche à Marx de ne pas avoir été assez matérialiste, d'avoir, au fond, un peu succombé à une pensée religieuse en admettant qu'il y avait une sorte de providence naturelle qui permettrait d'aller vers une sorte de progrès, etc. Et alors, je crois que dans l'attention, il y a à la fois une sorte de vigilance ou de découverte de ce qui peut, dans la mécanique des forces telles qu'elles existent dans l'univers, dans la nécessité, contraindre au fond nos imaginations, les habitudes de notre moi, etc., et parvenir à s'en dégager. C'est ce qu'elle appelle le passage à l'impersonnel. Mais l'impersonnel ne veut pas dire du tout une sorte d'abstraction idéale et tout ça, c'est simplement d'arriver à un état dans lequel ces contraintes ou ces servitudes sont suspendu. Et quand cela se produit, on découvre, comme elle le dit à Joé Bousquet, que les choses et les êtres existent. Et donc, ça peut avoir une application. Alors, elle pense que le domaine politique est coextensif au domaine de la morale. Il n'y a pas un domaine de la morale qui est privé, etc. L'action humaine doit être indissolublement et en même temps en la distinguant la couche, ou plutôt l'ordre du politique et l'ordre, au fond, de la spiritualité. Mais, effectivement, idéalement, il faudrait que les grandes actions, les actions qui ont un caractère salvateur ou destructeur, d'ailleurs, elles peuvent pencher, parce que le timé est très clair. Platon dit, aucun homme médiocre ne peut faire vraiment beaucoup de mal. Il faut une sorte de qualité intérieure pour être capable de grandes actions mauvaises. Et donc, si vous voulez, il y a, je crois, chez elle, ce sentiment que le domaine de la nécessité et de la force est toujours présent. On ne peut pas l'éliminer, faire semblant qu'il n'existe pas. Et l'attention, c'est à la fois la capacité de le reconnaître et en même temps de sentir quelle peut être l'action de Dieu. Mais elle dit dans une lettre à Schumann que justement, elle ne sait pas exactement comment ces relations se font et que ça la crucifie.
Oui, c'est juste. Juste un tout petit rebond là-dessus. Cette pensée dans les cahiers et qu'elle a tenue jusqu'à sa mort est une pensée qui est en ascension constante. Ça, j'ai pu le vérifier, ayant dressé des index même extrêmement précis des concepts qu'elle utilisait, des notions. Et précisément, à New York et encore plus à Londres, elle découvre, c'est peut-être pas une découverte, c'est peut-être un résultat qui devait advenir, étant donné l'excellence de cette pensée, les exigences et cette capacité d'attention, c'est que les grandes choses, un rien les fait basculer du divin au démoniaque. Vous voyez ? Donc, le jugement doit s'exercer sur une balance d'or, véritablement. Parce que, comme je rebondis exactement sur ce que vous avez dit, le grand, qui soit le grand dans le bon ou le grand dans l'exécrable, se côtoie et se touche. Il s'agit d'un rien. La qualité d'attention, là, joue son rôle à plein.
Tout à fait. Et avant de passer la parole à Sylvie Courtine de Namy, en écho à votre pensée que vous venez d'exprimer, vous indiquez, Bertrand Saint-Cernin, vous nous donnez à relire, à revisiter une phrase de Simone Veil, « Si ma pensée perd l'univers, si elle se retourne sur soi, elle n'est plus qu'une fantasmagorie. L'esprit inaugure, dès qu'il opère, le lien sacré de la pensée et de l'univers. »
Oui, cela fait penser au début de la 8e élégie de Duineau, de Rilke, où à un moment donné, Rilke dit « Nos yeux sont comme retournés ».
Et Sylvie oui, Courtine de Namy ?
Non, c'était simplement pour rappeler en guise d'illustration concernant la notion d'attention chez Simone Veil, que lorsqu'elle faisait les vendanges, elle se répétait dans sa tête, ou peut-être même à haute voix, je n'en sais rien, elle ne le précise pas, mais ce poème « Amour » que lui avait appris un jeune Anglais de sa connaissance lors de sa troisième expérience mystique, et non pas la première, à Solesmes en 1938, et que tout d'un coup, à force de récitation, c'est comme pour le pater d'ailleurs, cette récitation à la vertu d'une prière, parce que pour Simone Veil, la prière est attention. Donc vous demandiez qu'est-ce que c'est que cette attention, mais ça revient tout le temps, y compris dans la prière et y compris dans le travail, effectivement, comme un exercice spirituel.
Et d'ailleurs, ce sont les derniers mots de l'enracinement que le travail physique, au fond, est le centre même de la vie spirituelle. Les deux ne sont pas dissociés, ce qui est d'ailleurs ce qui fait partie des règles des grands ordres monastiques.
Oui, ora et labora.
Saint-Cernin, vous nous parlez d'évaluation prophétique de Simone Veil par rapport aux sciences. Vous indiquez dans votre ouvrage « Désormais, les sciences devenues des techniques théoriques tirent leur prestige de leur application. » Et elle perçoit, justement, Simone Veil perçoit dans ce dévoiement, écrivez-vous, des sciences, des causes de guerre, des maux atroces. Et vous dites, un tel diagnostic porté avant même l'apparition de l'arme nucléaire est rare, elle a saisi le génie de la technologie, les sciences et les techniques telles que nous les pratiquons aujourd'hui constituent le principal levier pour transformer le monde ou le détruire, écrivez-vous. C'est cette intuition que vous percevez chez elle, c'est cette force, cette énergie intuitive.
Écoutez, ce qu'on peut dire après 60 ans d'utilisation de l'arme nucléaire, c'est qu'effectivement, elle a quand même moins tué que les couteaux ou les fusils. Ça, c'est une première chose. Mais un équilibre par la terreur, c'est pour elle, cela relève justement de ce que la politique devrait ne pas être. C'est-à-dire qu'elle distingue très nettement ce qui relève de l'autorité, de l'auctoritas au sens latin, c'est-à-dire de l'action sur les autres qui est susceptible de les faire augmenter, de les faire grandir, et ce qui relève du pouvoir qui se traduit par une sorte de rupture entre le côté nécessairement limité des forces positives dont on dispose et des ambitions démesurées que l'on peut avoir. Et je crois qu'il y a cette analyse-là chez Simone Veil, et ce qu'elle redoute dans l'état des sciences dans les années 30, début des années 40, c'est justement que la perspective cosmologique ait été perdue de vue et que les sciences, tout en prétendant nous parler de l'univers, deviennent asservies à des besoins élémentaires. Mais, on trouve aussi dans son œuvre exactement le contrepoids de cette vision quand elle parle, par exemple, des machines automatiques, où elle dit la libération du travail manuel et de l'oppression sociale passe par les progrès de la technologie. Donc, Simone Veil n'est pas du tout un adversaire de la technologie. C'est quelqu'un qui comprend, au contraire, cette chose-là. Mais il y a un autre aspect de son œuvre qui est très important et qui se trouve notamment dans l'enracinement. À un moment donné, c'est à la fin du premier tiers du livre. Elle dit que ce qui caractérise la science contemporaine, c'est qu'elle s'est diffractée en un très grand nombre de spécialités. Et que, à l'intérieur même du monde savant, les scientifiques des différentes disciplines sont, pour la discipline qui n'est pas la leur, de simples amateurs. Et que, par conséquent, pour qu'il y ait vraiment un projet rationnel et pour que les citoyens soit averti de la destination des sommes ou de l'argent ou des projets auxquels leurs représentants, sur lesquels leurs représentants doivent donner un avis, il faut qu'il y ait un effort de traduction ou de transposition de la vérité, dit-elle, des spécialistes en direction des scientifiques des autres spécialités d'une part et du grand public de l'autre. Autrement dit, je crois que la science joue un rôle tout à fait central, mais il ne faut pas qu'elle reste au fond une affaire d'élite restreinte, de ce village des savants, sur lequel elle est sans illusion, car elle pense que la science est aussi, à l'époque contemporaine, une source très importante d'idéologie. Et que, donc, ce n'est pas simplement une source de rationalité, mais c'est une source d'irrationalisme également.
Vous évoquez cette notion philosophique dans cet ouvrage « Sagesse et grâce violente » qui est paru chez Bayard. Racontez-nous le pourquoi de la rédaction de cet ouvrage.
On me l'a demandé, de fait. C'était Marc Delaunay, un philosophe, et qui, chez Bayard, avait déjà sorti donc dans une collection qui n'existe plus, Les Compagnons philosophiques, des volumes de ce type. On m'a demandé exactement ce que je devais y mettre, c'est-à-dire des textes déjà parus.
Notamment celui de Bertrand Saint-Cernin.
J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à retrouver sur Internet cet article qui était, je crois que je ne me suis pas trompée, c'était finalement comme l'esquisse.
C'était un article publié dans Études.
C'est ça, oui, mais c'était un peu
l'esquisse. Ça a été l'esquisse,
n'est-ce pas,
de ce livre.
Voilà.
Tout à
Alors
fait.
J'étais enchantée parce que j'avais ce livre que j'aime énormément et nous allons nous débrouiller, monsieur, pour qu'il reparaisse.
Ah oui.
C'est très choquant qu'il ne reparaisse pas. Ça devrait être très facile maintenant que le nom de Simone Veil est lancé sur les ondes et partout. Donc j'étais très heureuse
de retrouver
cette esquisse qui, quand même, donne l'essentiel de la substance de ce livre merveilleux. Et puis alors, j'ai eu la chance aussi que Catherine Chevalet, la fille du mathématicien Chevalet, m'autorise à publier ce texte qu'elle avait d'ailleurs écrit pour moi. Je l'avais supplié d'écrire quelque chose lors d'un colloque qui avait eu lieu à New York. Et
Et racontez-nous cette autre aventure. Alors, Quarto, c'est...
On me l'a commandé aussi.
Chez Gallimard.
Oui, on me l'a commandé.
Un florilège d'extraits.
C'est-à-dire que nous étions donc, toute l'équipe des œuvres complètes à travailler, comme vous savez, quand même, rudement, durement. Moi-même, conservateur, j'étais très occupée. J'ai dû insérer une thèse de doctorat au milieu de tout ça.
Vous en parlez au passé, mais ça se poursuit au présent et même dans l'avenir.
Oui, mais enfin, je veux dire que j'avais le travail de conservateur qui est quand même très écrasant, avec des grandes expositions à préparer. Et voilà que vient se greffer en plus cette commande, car ce fut une commande. Et une commande absolument terrorisante, parce que maintenant, même dans les grandes maisons les plus sérieuses comme Gallimard, vous êtes soumis à un timing. Donc, en 9 mois, tout doit être bouclé. Et on ne tient pas compte de la fatigue de la personne qui est en charge du dossier. Donc, on tombe malade, on essaie de tenir, on vous donne 8 jours pour guérir, on veut bien reculer de quelques jours la remise du manuscrit. Enfin, moi, j'ai gardé un souvenir à la fois émerveillé, si vous voulez, et terrifié de ces rigueurs éditoriales.
Mais c'est un très, très bon et très...
Non, je ne sais pas.
Ah
mais...
oui, très utile.
Très utile.
Oui.
Voilà, très un solide ouvrage.
Très utile ah, oui. Et très bien fait, très équilibré.
Très... Mais j'étais très, oui, j'étais très aidée par l'équipe de Quarto que je veux féliciter ici. Mmh. Il y a des cellules au sein de Gallimard qui sont tout à fait remarquables. J'ai été très aidée. J'ai beaucoup souffert moi-même parce que je vous ai dit, j'ai dû travailler dans un temps ridiculement faible. En 9 mois, il a fallu accoucher de tout cela. Mais eux-mêmes, autour de moi, ils ont énormément travaillé. Alors, c'est un bonheur, si vous voulez, un bonheur inattendu, payé assez cher, écrit un peu dans la sueur et les larmes, mais voilà.
Justement, dans Simone Veil, Sagesse et Grâce violente, en oui. reportant donc, les paroles de Bertrand Saint-Sernin,
oui.
donc Bertrand Saint-Sernin évoque dans ce passage la notion de malheur. Et c'est un personnage qui est très sensible, très en réception du malheur du monde. Et personnellement, il y a un côté doloriste au personnage de Simone Veil, un côté réception et accablement de tout le malheur du monde, mais qui correspond à une nécessité pour rebondir après vers un ailleurs.
Je ne la trouve pas si doloriste que cela. Il faut se reporter à ce texte merveilleux, Le cœur de l'Agamemnon d'Eschyle. Voyez, par la douleur, la connaissance. Et puis que, dans le sommeil, se distille goutte à goutte cette peine inévitable. Elle parle admirablement de la misère humaine. Nous sommes des êtres probablement destinés à un au-delà spirituel. Personnellement, je le crois. Mais sur cette terre, nous vivons assez misérablement, même très misérablement. Je crois que l'essentiel, c'est de coïncider avec cette misère du monde, qui, si elle est regardée en face, elle a toujours tout regardé en face, avec énergie, en ouvrant bien les yeux, et sans faillir, sans faiblir, comprendre, comme dit Spinoza, ne pas pleurer, ne pas rire, ne pas se révolter. On regarde et on comprend. Eh bien, cette douleur du monde, si elle est regardée avec cette, à la fois cette compassion, cette attention et ce sens du réel, peut se transmuer en joie. Malheur et joie, ce sont deux notions qui sont tout à fait gémellisées chez elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Saint-Sernin ?
Je crois que dans ses écrits, proprement dit, je partage votre avis, elle n'est pas doloriste. Non. Autrement dit, et je crois qu'elle souffrait beaucoup. Par exemple, elle avait des maux de tête. Il y a des scènes très amusantes quand elle est en usine. Elle a une camarade de travail. Elle lui demande « Mais qu'allez-vous faire ce week-end ?» Et l'autre lui dit « Je vais danser. » Et alors, elle est tout à fait stupéfaite qu'une ouvrière qui a travaillé autant qu'elle pendant la journée puisse être en assez bonne forme pour avoir envie de danser le samedi soir. Et effectivement, elle est, elle, physiquement accablée.
Fragilisée.
Et
oui.
En même temps, probablement, elle n'était pas très à droite au fond de ses mains. On sait qu'en Espagne, elle a été victime d'un accident assez rapidement. Quand elle est à Londres, elle a l'espoir d'être parachutée en France. Et Jean Cavaillès, qui se trouve à ce moment-là en Angleterre, décide que ça n'est pas probablement une bonne idée, elle en est extrêmement malheureuse. Donc, il y a certainement, si vous voulez, un malheur, mais qui tient au fait que, quand on a la lucidité et la profondeur qu'elle a, comment ne pas apercevoir ce malheur des autres et comment ne pas le ressentir. Mais je crois que ce n'est pas du tout un malheur, je dirais, autocentré. Ce n'est pas quelque chose...
Dans lequel on se complaît.
Oui, oui. Non, il n'y a aucune complaisance, je crois.
Aucune recherche du malheur.
Non.
Comme transfiguration.
Alors, je retiens, je ne sais plus qui a prononcé cette parole, elle me semble excellente. Il s'agit chez elle d'un pessimisme roboratif. Vous voyez, quelque chose qui permet de...
Nous souhaitons tous d'avoir ce pessimiste roboratif,
oui.
Car nous sommes tous en contact avec des épreuves à surmonter, comme elle l'a été tout au long de sa vie.
Toute jeune, dans son premier cahier, elle a 25 ans, elle écrit « De l'illusion à la réalité », après une lecture, une relecture du Faust. Donc on peut dire que ça peut servir d'adage pour toute sa vie. De l'illusion à la réalité. Alors on s'illusionne si on pense que l'homme sur Terre est destiné à trouver un bonheur aisé. Non, c'est impossible, c'est impensable, c'est même stupide. Il faut arracher le rideau des illusions. Elle arrache souvent avec brutalité. Il y avait chez elle une violence évidente.
Et pour cette notion de non-soumission et de totale soumission à Dieu, et qui intervient de façon brutale dans sa vie, avec une espèce de conversion à Solesmes, quelque chose de l'ordre de la révélation chez elle, vous pensez ?
Il y a quelque chose qui est très éclairant au début de l'enracinement, quand il est question des besoins de l'âme, où elle dit « l'obéissance est un besoin de l'âme » et la liberté, l'initiative, la responsabilité est aussi un besoin de l'âme. Et c'est une chose qui n'est pas une invention. Par exemple, dans le récit que Xénophon a laissé de la retraite des 10 000, ce corps expéditionnaire grec qui se trouve au milieu des Perses et tout ça, qui perd complètement confiance en lui, tous les chefs sont perdus, etc. Xénophon, qui n'est pas du tout un militaire de carrière, qui est un jeune homme de 25 ans qui a accompagné un grec qui allait faire du commerce en Perse, se dit « si nous ne faisons rien, nous sommes perdus, nous allons mourir les uns après les autres ». Et il retourne la situation dans la nuit, il se fait élire stratège et il ramène les Grecs jusqu'à la mer où on a le mot célèbre, Thalatta, etc. Bon. Et je crois que Simone Veil, qui est nourrie de littérature ancienne, de littérature grecque, voit très très bien cette double face au fond de toute action. On ne peut commander que si l'on a une grande expérience de l'obéissance, pour une raison très simple, c'est que quand on commande à quelqu'un, il faut avoir une idée de la réaction qu'il aura aux ordres qu'on lui demandera d'exécuter. Et je pense qu'elle voit aussi dans la vie spirituelle, si vous voulez, ces deux aspects. Il y a à la fois l'obéissance qui est la découverte de la nécessité, et il y a en même temps la liberté qui est le fait que Dieu a créé des êtres qui ont justement cette capacité d'initier des choses. Il y a un mot très beau de Platon dans les Lois où il dit « le commencement est un dieu ». Et Anna Arendt a fait son habilitation sur saint Augustin et elle cite ce mot de saint Augustin que Dieu a fait l'homme pour qu'il y eût du commencement, ut initium esset. Et je crois qu'il y a chez Simone Veil ces deux.
Oui, je peux considérer aussi cette problématique d'une manière plus affirmative. Elle a quand même en elle une fibre d'irrégularité. Elle la cultive tout de même assez volontiers. Ainsi, quand elle relie avec émerveillement les sept piliers de la sagesse, elle fait donc de Lawrence un modèle dans l'analyse qu'il a réussi à faire de cette obéissance à un chef de la part de ces gens appartenant à des tribus. Ils obéissent et en même temps, il faut les laisser libres d'obéir. Donc c'est une suggestion qui est accordée et accordée chevaleresquement finalement. Au fond, l'idéal de Simone, c'est l'idéal chevaleresque. Mmh. Elle le redit à plusieurs reprises, en particulier quand elle était à Marseille et qu'elle écrit sur l'Occitanie. Elle y voit là quelques secrets de ce qu'on pourrait appeler la réussite humaine. On obéit, mais on obéit volontairement.
Bien, comme point d'orgue, terminer sur une idée majeure qui vous a nourri, vous, personnellement, dans votre cheminement, soit philosophique, soit religieux, soit éthique, soit une mise en route, vous qui qui poursuivait ce compagnonnage avec elle et qui allait continuer pendant combien d'années encore par rapport à l'épuisement total de ses parutions chez Gallimard.
Je ne sais pas si je vivrai jusque-là.
C'est ce que nous vous souhaitons de tout cœur, pour que ce beau travail puisse s'achever en votre compagnie.
Oui. Non, ce qui m'émeut le plus peut-être, c'est peut-être cette façon qu'elle a de dresser au pinacle ce qu'elle appelle la corrélation des contraires. Parce que c'est un point totalement central chez elle. L'assimilation, géométriquement parlant, vous comprenez, des nombres sont... Vous avez une similitude dans la mesure où, à la faveur de l'existence d'une moyenne proportionnelle, vous pouvez réunir des contraires ou des contradictoires. Ce qui lui permet d'entrer très fortement, génialement, dans l'examen de la Trinité, telle que la religion chrétienne vous l'enseigne. Elle a une analyse et un jugement sur ce que la foi dit, ordonne, si vous voulez, d'accepter. Elle décortique cela d'une manière absolument étonnante. D'où cette liberté, chez elle, sublime, de marier des ordres divers et de faire se conjoindre des domaines qui, au premier abord, n'ont absolument rien à voir.
Comme sa chrétienté avec le monde grec, par exemple.
Oui, je crois. Vous êtes un peu de cet avis, Monsieur Saint-Cernin ?
Oui, oui. Si vous voulez, comme je n'avais pas l'expérience spirituelle de Simone Veil, j'ai essayé plutôt de prendre un angle d'attaque plus pedestrian, comme diraient les Anglais, et donc l'action politique. Ce qui m'a le plus frappé, c'était justement qu'avec des moyens très simples, il fut possible de discerner les grands mouvements ou les grandes catastrophes ou les grandes possibilités d'action dans le monde. Et que je crois que c'est un message qui est important, puisque nous nous rendons compte que finalement le monde n'est pas tranquille et au contraire souvent en pleine tourmente. Et Simone Veil a cultivé, a eu ce don du discernement, en disant d'ailleurs que les choses essentielles sont des vérités simples. Et elle fait une distinction entre le talent, qui peut être très sophistiqué, et le génie, qui peut cohabiter avec peut-être un talent ou une ingéniosité limitée, mais qui met le doigt sur les choses essentielles. Ces vérités, comme elle dit, lumineuses, simples. Et elle dit un mot très curieux, où elle dit « il faudrait dire des choses éternelles pour être sûr qu'elles soient d'actualité ».
Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission.